VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Diriac au micro, Anne Albertson à mes côtés. Bienvenue à cette édition du mardi 10 mars 2015. Au sommaire ce matin,
Simone Gbagbo condamnée à 20 ans de prison. Le verdict contre l'ex-première dame de Côte d'Ivoire est tombé ce matin à Abidjan.
Du nouveau sur l'attentat de Bamako, la fusillade de vendredi soir dans un bar de la capitale malienne aurait été menée par au moins 5 personnes.
L'Union nationale des étudiants tchadiens appelle à une grève de 3 jours. Ils protestent contre les violences lors d'une manifestation de lycéens hier à N'Djamena.
En analyse ce matin, comment interpréter le rattachement de Boko Haram à l'État islamique ? Ne manquez pas la Minute Écho et les sports, mais avant le journal.
Simone Gbagbo, donc condamnée à 20 ans de prison, tel est le verdict rendu à l'unanimité ce matin par la justice ivoirienne après plus de 9 heures de délibération du jury. Comme le rappelle l'AFP, le parquet général avait pourtant requis une peine moitié moindre, soit 10 ans d'emprisonnement, reconnu coupable d'attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire était notamment jugée pour son rôle durant la crise post-électorale de 2010-2011. Qui a fait plus de 3000 morts.
Du nouveau sur l'attentat de Bamako, la fusillade qui a fait 5 morts vendredi soir dans un bar de la capitale malienne aurait été menée par au moins 5 personnes. C'est ce qui ressort des enquêtes réalisées avec l'appui d'enquêteurs étrangers, notamment français et belges. On fait le point avec Kassim Traoré.
L'enquête continuera avec l'appui de la France. Choguel Kokala Maïga, ministre porte-parole du gouvernement malien.
Par définition, ces genres d'enquêtes ont vocation à ne pas être commentées jusqu'à ce qu'elles aboutissent. La France va aider le Mali, va appuyer le Mali dans les enquêtes, dans les investigations, afin de rechercher les coupables et les punir. La panique ne gagnera pas le rang des Maliens.
Mieux, le gouvernement malien reste dans la logique de la signature de l'accord de paix, afin d'éviter toute polémique sur le terrain.
Les ennemis de la paix, quel que soit les coins où ils sont tapis, sortent pour travailler à saboter l'accord. Et nous inscrivons les actes qui sont en train d'être perpétrés dans ce cadre-là. Parce qu'en vérité, tant qu'une partie de nos frères n'adhéreront pas à l'accord, tout ce qui se passera pourra être interprété. Certains diront que ce sont eux, mais nous savons aussi que les terroristes se cachent derrière les désaccords entre Maliens pour agir.
La France exhorte la rébellion à paraffer l'accord entériné le 1er mars à Alger par le camp gouvernemental malien. Au moment même où nous sommes à quelques mètres de la paix, des forces qui lui sont hostiles essaient d'intervenir pour casser cette perspective, a déploré le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius en visite au Maroc.
L'Union nationale des étudiants tchadiens, UNET, a appelé à une grève de 3 jours dans toutes les institutions universitaires du pays à partir d'aujourd'hui, suite à la violente répression hier d'une manifestation de lycéens à N'Djamena contre le port obligatoire de casques pour les motocyclistes. Les manifestants, qui jugent cette décision coûteuse, s'en sont violemment pris aux motocyclistes portant le casque, ce qui a entraîné l'intervention des forces de sécurité. Bilan, un étudiant a été tué, un bus de transport d'étudiants incendié, plusieurs manifestants blessés et arrêtés. Écoutons Nadjo Kaina, président de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
Suite à la manifestation organisée par les élèves du lycée Félix Eboué, toutes les institutions de l'enseignement supérieur environnant ont été injustement attaquées par les éléments des forces de l'ordre. Le bureau national de l'UNET dénonce et condamne cette agression injuste perpétrée à l'égard des étudiants en général et ce, en pleine session dans les salles et amphi. Nous tenons à informer que les étudiants étaient victimes de traitements cruels, inhumains et dégradants, bien que la manifestation ne les concernait pas. Nous déplorons et exprimons notre amertume pour les étudiants blessés, décédés, ainsi que les multiples arrestations. Nous tenons à informer toutes les couches sociales de ces actes cruels et barbares et entendons clairement exprimer notre mécontentement sur le plan national. Par conséquent, une grève de 3 jours sera observée par toutes les institutions de l'enseignement supérieur sur le plan national à compter de mardi 10 mars 2015 au vendredi 13 mars 2015. À cet effet, le Bureau national des UNET appelle les autorités militaires et administratives à prendre les responsabilités, car les étudiants ne sont pas responsables de cette situation. Nous demandons que la lumière soit faite sur ces événements tragiques et appelons tous les étudiants tchadiens à suivre de très près cette situation.
Nadio Kaina, président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, un extrait fourni par FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
Suite à une grande sécheresse, 200 000 personnes souffriraient de la faim à Madagascar et 16 enfants seraient morts de malnutrition. Le Programme alimentaire mondial lance un appel à l'aide, Claire Morin-Gibourg.
Dans le sud de la Grande Île, une sécheresse exceptionnelle d'octobre à février a détruit les récoltes. La nourriture s'est raréfiée et les responsables locaux ont fait état de plusieurs cas d'enfants décédés, épuisés par la faim. Le PAM, le Programme alimentaire mondial qui distribue des rations alimentaires à 120 000 personnes, lance un cri d'alarme. Selon l'agence onusienne, ce sont 200 000 personnes qui souffriraient de difficultés alimentaires aiguës. Les chiffres du gouvernement sont eux plus pessimistes, faisant état de 350 000 personnes souffrant de la faim. Au-delà de l'urgence, le PAM appelle les donateurs à immédiatement reconstituer les réserves alimentaires, même si pour l'heure, la situation n'est pas encore qualifiée de famine, comme en 1991, lorsque plusieurs centaines de personnes étaient mortes dans la région. Bertrand Randria Narivo, originaire de la région qui travaille depuis 2001 avec les diverses ONG intervenant dans cette partie de l'île, a confié à l'AFP que la sécheresse frappe tous les 5 ou 6 ans, le sud de Madagascar. Selon lui, la mise en place d'un système de drainage de l'eau et un désenclavement de la région sont prioritaires, mais beaucoup de bailleurs voulant mettre en place ce système ont été découragés par le manque de volonté des dirigeants successifs du pays.
L'embargo sur les armes maintenu en Libye, 7 membres du Conseil de sécurité ont bloqué la demande de dérogation introduite par les autorités libyennes. C'est ce qu'ont révélé des diplomates à l'AFP, affirmant vouloir lutter contre les groupes djihadistes. La Libye souhaitait notamment acheter des hélicoptères, des avions de combat, des tanks à l'Ukraine, à la Serbie et à la République tchèque.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En visite en Irak, le chef d'état-major interarmé américain a assuré que le groupe État islamique serait battu. Il a appelé à l'unité nationale face aux djihadistes contre lesquels les forces irakiennes ont lancé une vaste offensive. Les précisions de Michel Joseph.
À Bagdad, le général Martin Dempsey s'est entretenu avec de hauts responsables irakiens pour faire le point sur les opérations militaires visant à reprendre à l'État islamique la ville de Tikrit dans le nord du pays. Une opération qui implique plus de 20 000 hommes. Daesh sera battu, a assuré hier le général Martin Dempsey à Bagdad. Sa visite coïncide avec le lancement par les forces kurdes d'une offensive au sud et à l'ouest de la ville pétrolière de Kirkuk, fief des djihadistes, opération qui implique plus de 20 000 hommes. Cette attaque s'est faite avec l'appui de la coalition internationale anti-djihadiste, dont les frappes se doivent d'être très précises, selon les mots du général américain, afin d'éviter plus de souffrances pour les populations civiles, a-t-il souligné. Les autorités irakiennes se heurtent à une résistance de l'État islamique dans cette cité stratégique, car située sur la route entre Bagdad et Mossoul, la plus grande ville du califat autoproclamé par le groupe extrémiste sunnite. Daesh a profité du ressentiment de la communauté sunnite vis-à-vis des gouvernements majoritairement chiites de ces dernières années pour effectuer sa percée en Irak. Le général Dempsey a estimé que la coalition pourrait être fragilisée si le gouvernement irakien ne parvenait pas à résoudre les divisions confessionnelles dans le pays.
Appui militaire des États-Unis aux pays baltes. 750 véhicules ont d'ores et déjà été livrés. Un premier détachement de 300 hommes de la 3e division de l'infanterie sont déjà sur place. Les précisions de Salwa Jafari.
Washington devrait en envoyer 2700 autres dans les prochaines semaines pour une mission de 90 jours selon le porte-parole du Pentagone. Après quoi, les soldats rentrent, l'équipement reste aussi longtemps que possible, tant que ce sera nécessaire pour dissuader la Russie d'une agression, selon le général John O'Connor. Les équipements comprennent notamment des chars Abrams, des véhicules de combat Bradley et des véhicules de transport Humvee, ainsi que des hélicoptères. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de l'opération l'opération Atlantic Resolve, détermination atlantique lancée par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN pour rassurer les pays membres et alliés de l'organisation atlantique face à la Russie. L'invasion de la Crimée par la Russie et le soutien de Moscou aux séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine inquiètent profondément la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, devenues en 2004 membres de l'Union européenne et de l'OTAN après un demi-siècle d'occupation soviétique jusqu'au début des années 1990.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Côte d'Ivoire, à l'issue d'une visite officielle de plusieurs jours dans le district du Bas-Sassandra, le président Alassane Ouattara a annoncé dimanche à Saint-Pedro qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, voire même plutôt une baisse, indique l'agence de presse africaine. Lors d'une conférence de presse, M. Ouattara a estimé que le pays était doté d'un des meilleurs cadrages macroéconomiques dans le monde selon ses termes. Nous entendons maintenir ces bonnes performances, a-t-il souligné, ajoutant vouloir baisser les impôts au fur et à mesure que la base imposable va s'améliorer, a-t-il dit. Il a par ailleurs dit souhaiter convaincre les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de permettre un début de baisse des droits de douane. Vodafone a lancé le premier service de transfert de fonds frontaliers entre la Tanzanie et le Kenya via la plateforme de paiement mobile M-Pesa, rapporte Jeune Afrique. Ce service, a déclaré l'opérateur britannique, rapproche quelque 18 millions de clients M-Pesa de Safaricom au Kenya et environ 7 millions chez Vodacom Tanzania grâce à un réseau de 180 000 agents établis dans les deux pays. La plateforme de paiement mobile est une alternative aux services traditionnels de transfert de fonds internationaux. Selon une enquête réalisée par Urban Studies, l'Afrique et le Moyen-Orient ne représentent que 2% du commerce électronique mondial, avec toutefois un potentiel très élevé, rapporte la presse sénégalaise. L'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale représentent plus de 90% du commerce électronique. Comme le constatent d'autres études auparavant, le document relève cependant les nombreuses potentialités qui s'offrent à l'Afrique. En effet, McKinsey & Co. avait estimé que le commerce électronique pourrait représenter quelque 10% des ventes au détail des grandes économies africaines d'ici 2025.
Allez, place au sport avec Timothée Dodangmaï. Football africain avec la CAN des moins de 20 ans au Sénégal.
C'est journée de repos dans ce tournoi aujourd'hui. Hier dans le groupe B, le Ghana a bien entamé la compétition en battant l'Afrique du Sud 2-0. La seconde rencontre du groupe s'est soldée par la victoire des jeunes maliens face à leurs homologues zambiens 1-0. But du milieu de terrain malien Alassane Diallo à la 75e minute. Les hostilités reprennent demain avec la deuxième journée dans le groupe A, Nigeria-Congo et Côte d'Ivoire-Sénégal. Le Nigeria est en tête de groupe grâce à sa victoire 3-1 contre le Sénégal dimanche. La Côte d'Ivoire et le Congo comptent un point chacun après leur match nul 1-0.
L'Agence mondiale antidopage dit qu'elle travaillera avec l'Union cycliste internationale pour mettre en œuvre des réformes après un rapport épinglant d'anciens responsables de l'Union dans le scandale de dopage de l'ex-champion cycliste américain Lance Armstrong.
L'agence examinera notamment les défaillances passées de l'UCI dans l'application des exemptions thérapeutiques aux tests antidopage, a fait savoir son directeur David Howman. Ce dernier a relevé dans le nouveau rapport que le dopage a toujours cours dans le cyclisme et que certains cyclistes paient des officiels de l'Union cycliste internationale pour éviter les tests antidopage. À plusieurs reprises, l'Union cycliste internationale n'a pas appliqué ses propres règles, ont relevé les trois auteurs du rapport d'enquête publié hier.
La Française Amélie Mauresmo au Panthéon du tennis mondial.
Et oui, elle a été élue hier au Hall of Fame du tennis en compagnie de David Hall, sextuple médaillé paralympique, et de Nancy Jeffet pour ses efforts en faveur du tennis féminin et junior, a annoncé l'association basée ici aux États-Unis. Double championne des tournois du Grand Chelem, Mauresmo a été la première Française classée numéro 1 mondial. À présent, Morgane, quelques résultats de la NBA, le championnat nord-américain de basketball professionnel.
Washington, Charlotte 95-69, Sacramento, Atlanta 105-130, Boston, Miami 190, Memphis, Chicago 101-91, New Orleans, Milwaukee 114-103, New York, Denver 78-106, Golden State Warriors, Phoenix 98-80, Minnesota, Los Angeles Clippers 76-89.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie pour cette édition du mardi 10 mars 2015. Place au dossier du jour. Au Nigeria, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a annoncé samedi son allégeance à l'État islamique dans une déclaration sur Twitter et dans un enregistrement audio de 8 minutes dans lequel il promet de faire enrager les ennemis d'Allah. Comment interpréter ce rattachement de la secte islamiste nigériane à Daesh ? Claire Morin-Gibourg a joint Yann Saint-Pierre, expert en lutte contre le terrorisme et spécialisé sur Boko Haram.
C'est une allégeance, c'est un serment qui se veut stratégique, beaucoup plus que symbolique. C'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté comme étant très superficiel. C'est pas un changement profond non plus. Il y aura un impact sur les aspects opérationnels en termes de propagande, en termes de financement. Et puis, ça s'avère un peu la conclusion d'un processus qui dure déjà depuis quelques mois. Nous, on avait déjà été en mesure de vérifier des discussions qui avaient déjà lieu entre l'État islamique et Boko Haram, essentiellement sur un partage de territoire et comment gérer le trafic, que ce soit le trafic d'humains, le trafic de drogue, le trafic d'armes. Et donc, le serment d'allégeance prêté cette fin de semaine se trouve un peu être la conclusion de ces pourparlers qui ont duré maintenant près de 5 à 6 mois.
Certains experts parlent essentiellement de propagande, en fait d'une annonce qui servirait un peu à regonfler le moral de troupes. Est-ce qu'on peut être aussi positif dans la lecture de cet événement?
Ça aura effectivement un impact très, très fort sur le recrutement, particulièrement du côté de Boko Haram. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Boko Haram, même au sein des cercles djihadistes, a très, très mauvaise réputation. Ils sont vus un peu comme des chiens sauvages sur lesquels on ne peut pas vraiment compter. Donc, le fait d'être associé maintenant à l'EI leur donne une couverture de crédibilité, ils sont maintenant associés à un partenaire qui a un certain niveau de succès, si on peut s'exprimer ici, qui a de l'envergure, qui a des ressources, une structure qui offre maintenant des garanties pour ceux qui désirent se joindre à Boko Haram. Ça va effectivement avoir un impact très, très fort au niveau du recrutement, moins du côté de l'État islamique, parce que pour eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de ça. Ça demeure un grand coup. Nous, on a été en mesure de vérifier. Parmi les supporters de l'État islamique, ils étaient très, très heureux de savoir que Boko Haram avait prêté allégeance, tandis que Boko Haram, les supporters étaient beaucoup plus silencieux. Donc, l'impact à ce niveau sera beaucoup plus sur Boko Haram que pour l'État islamique.
Yann Saint-Pierre, expert en lutte contre le terrorisme pour l'entreprise berlinoise Modern Security Consulting.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Élection nigériane du 28 mars, une carte d'électeur biométrique a été introduite pour empêcher la fraude. Toutefois, les autorités et la société civile sont vivement préoccupées par de récentes tentatives de certains électeurs de vendre leur carte au plus offrant. Les précisions de Lionel Gaïma.
La police de l'État de Kaduna dans le nord du Nigeria a récemment arrêté une femme ayant tenté de vendre sa carte électorale à un militant du parti au pouvoir. Au journaliste Mustapha Ayolola, qui lui a rendu visite dans sa cellule, la dame a avoué qu'elle avait besoin d'argent. Selon la dame, un ami lui dit « Écoute, tu dis avoir besoin d'argent, pourquoi ne vends-tu pas ta carte électorale permanente ?» Une telle vente pourrait rapporter de 25 à 50 dollars, a indiqué le journaliste Ayolola. Si la vendeuse présumée voulait se faire de l'argent, en revanche, les transactions dont fait l'objet la carte électorale biométrique répondent à des calculs purement politiques, expliquent des responsables de la société civile nigériane. S'approprier des cartes d'électeurs a été utilisé par le passé aux fins de fraude électorale ou pour stratégiquement dénier aux gens leur droit de vote, affirme Clément Nankwo, directeur exécutif d'une ONG locale. De deux choses l'une, soit l'on achète des cartes électorales dans les bastions de l'adversaire pour réduire le suffrage en sa faveur, ou alors on a vu dans le processus des failles qu'on veut exploiter pour amasser les voix pour soi-même. Bien entendu, il est illégal de vendre les cartes électorales et M. Nankwo avoue n'avoir aucune idée de l'étendue du phénomène, même s'il a entendu des anecdotes à ce sujet. De son côté, la commission électorale nigériane a commencé à équiper ses agents de lecteurs électroniques à même de scanner de la carte d'un électeur ses détails biométriques. Cela pourrait aider à réduire la vente de cartes électorales, pense Nick Dazan, directeur adjoint de relations publiques de la commission électorale nigériane. Même si vous achetez des cartes, la technologie que nous déployons est conçue de manière à empêcher toute personne de voter en utilisant la carte de quelqu'un d'autre. Rien n'est pourtant joué, un groupe de pression a saisi la justice pour exiger que la commission électorale retire des lecteurs de cartes biométriques du scrutin du 28 mars. Selon le groupe, ces appareils pourraient s'avérer défectueux et supprimer les votes de certains électeurs. Dans le même temps, les activistes avertissent que si les lecteurs électroniques de cartes ne sont pas utilisés, on assisterait à une explosion des achats et ventes de cartes électorales biométriques. Selon la Banque mondiale, 46% des Nigérians vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour cela, vendre sa carte électorale relèverait d'une nécessité économique pressante plutôt qu'autre chose.
Nous vous en parlions la semaine dernière. Des robots régulent désormais le trafic routier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. À l'origine de ces drôles d'agents de la circulation, une femme, l'ingénieure Thérèse Isa Kirongozi. Au micro d'Eddie Isongo, elle nous parle de ces robots.
Sur la route, les gens voient un robot, mais il y a un centre de contrôle qui se trouve dans une place de la police, là où on voit à temps réel tout ce qui se passe autour du robot. Le jour, c'est à 200 mètres et la nuit, avec les infrarouges, nous poussons à peu près à 250 mètres.
Il s'agit des robots dotés des caméras et qui peuvent communiquer de façon limitée avec les usagers de la route. Thérèse Kirongozi explique que l'idée de fabriquer ces robots lui est venue d'une révolte. Elle avait en effet constaté que de nombreuses femmes qui, comme elle, ont étudié pour être ingénieurs, finissaient parfois derrière des étalages des marchés à vendre des petits articles.
J'amène des femmes, je les forme et puis je les laisse pour qu'elles volent avec leurs propres ailes. Nous avons à peu près 10 jeunes filles ingénieures que nous sommes en train de lancer par rapport au système de commandes à distance.
Les soucis de Mme Kirongozi étaient premièrement de réduire le nombre des cas d'accidents sur les routes des grandes villes qui s'élargissent avec la modernisation, atteignant parfois 6 voies. Pour elle, faire bénéficier l'économie du pays des entrées qui peuvent permettre les routes était également un autre souci.
D'après le rapport de l'OMS, il y a 26 personnes qui meurent par air en Afrique à cause des accidents de circulation routière. Le monde entier cherche toujours des solutions pour savoir comment on peut atténuer les cas des accidents en Afrique, surtout dans ma ville de Kinshasa, là où il y a une grande agglomération de plus de 10 millions d'habitants.
Avec une armature en aluminium, ces robots sont fabriqués par des femmes et des jeunes Congolais. Thérèse Kirongozi, qui s'était lancée dans l'aventure avec seulement l'appui de son mari il y a de cela 2 ans, commence un peu à sourire puisque le gouvernement en a commandé 30. Mais la conceptrice voit large et affirme être en négociation avec certains pays d'Afrique comme l'Angola, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, où les robots peuvent contribuer au développement et régler les problèmes communs à tous les continents relatifs à la route.
Il faut encourager les initiatives locales. C'est ça qui va créer. On ne peut pas attendre un étranger pour venir développer le pays.
Selon elle, ces nouveaux robots seront aussi utiles à la sécurité car ils sont dotés des caméras de surveillance.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Apple a dévoilé officiellement hier sa montre connectée, l'Apple Watch, à San Francisco. Déclinée en 3 modèles, cette montre à écran tactile permettra de téléphoner, d'échanger des SMS et d'écouter de la musique. Et même consulter l'heure, bien sûr. Une montre haut de gamme, puisque le premier modèle sera commercialisé à $350, une nouveauté très attendue par les aficionados de la marque, comme en témoigne Ludovic Gaulion, coéditeur du site Geeks & Com.
C'était un petit peu l'aboutissement de tout le teasing qu'a fait Apple durant les derniers mois au niveau de sa montre. C'était l'occasion aujourd'hui de confirmer un peu l'ensemble des fonctionnalités, les différents prix, puis la date de sortie. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'attendaient beaucoup, en particulier les possesseurs d'Apple et les amateurs de la marque, pour savoir un petit peu quand est-ce qu'ils allaient pouvoir mettre autour de leur poignet la nouvelle montre.
Alors, quelles ont été pour vous les bonnes et les mauvaises surprises?
Les bonnes surprises, c'est que Apple a confirmé un petit peu tout ce qu'ils nous avaient laissé entendre au niveau des fonctionnalités. Donc, effectivement, on va pouvoir prendre des appels, répondre, faire des messages textes, des SMS et avoir accès à des applications sur la montre. Donc, il n'y a pas eu de mauvaise surprise à ce niveau-là où Tim Cook n'est pas revenu sur ce qu'il avait dit. Qui est un petit peu plus, qu'il va falloir voir dans le futur, c'est qu'est-ce qu'on doit attendre vraiment au niveau de l'autonomie de la montre, parce que c'est la grosse question qui reste. Apple nous a dit qu'ils espéraient avoir une journée d'utilisation en moyenne, donc à peu près 18 heures pour la plupart des utilisateurs, mais il va falloir vraiment voir ça dès qu'on aura accès au premier modèle pour vérifier si effectivement on va pouvoir s'attendre à ça.
Est-ce que le clavier d'une montre, en fait, n'est quand même pas trop petit pour pouvoir ne serait-ce qu'envoyer un texto?
En fait, il n'y a aucune des démonstrations qui ont été faites qui faisaient appel au clavier. Tout se fait vraiment par la commande vocale avec l'aide de Siri. Donc, on peut répondre aux messages directement par la voix. Et ensuite, on a deux possibilités. Soit si on est satisfait de la transcription de texte qui a été faite de ce qu'on a dit à la montre, on peut l'envoyer tel quel. Ou sinon, on peut simplement envoyer le fichier audio de ce qu'on a prononcé. Donc, ça permet à la personne d'écouter directement notre réponse.
Et au niveau des prix, qu'en pensez-vous?
C'est sûr que ça a été un petit peu la surprise parce qu'il n'y avait rien qui avait été annoncé à ce niveau-là. Et on est quand même un petit peu comme souvent avec les produits Apple au-dessus de ce qui se fait dans le marché aujourd'hui. Il faut savoir que le modèle d'entrée de gamme des Apple qui va être la Apple Watch Sport commencera à $349 américains. Donc quand on sait que la montre équivalente de Samsung se vend actuellement à peu près $200, on est quand même sur une montre qui est beaucoup plus haut de gamme au niveau du prix.
Et vous allez vous en acheter une?
J'ai définitivement envie de l'essayer, oui, pour pouvoir me faire mon opinion dessus.
Voilà, c'était Ludovic Gaulion, co-éditeur du site internet geeksandcom.com.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ken Guiriec, Anne Alberson à mes côtés, à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VO.